Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'écoute de notre magazine concocté avec amour. Nous débutons sans transition avec les forêts du cinéaste-photographe Vincent Munier, à l'honneur du musée des Confluences. Nous poursuivons en saluant l'orage avec les invités de Guillaume. La belle Gaëlle nous entraîne sur ses pas à Grenoble pour une histoire d'image, avec la donation Antoine de Galbert. Thomas fermera le bal avec la lecture d'Eri De Luca, un extrait de son roman Impossible paru en 2020. Nous terminerons par nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Je vous propose de me suivre au cœur de la forêt à l'affût avec le photographe et cinéaste animalier Vincent Munier. Il est à l'honneur d'une très belle exposition au musée des Confluences.
Cette semaine, je vous propose une plongée en forêt, la nuit, aux côtés de Vincent Munier, photographe et cinéaste animalier. On connaît son travail grâce à des films comme La Panthère des Neiges, mais aussi grâce à des publications dans des magazines. La faune sauvage le passionne, et il en parle très bien. Ses sources d'inspiration sont à chercher du côté des arts plastiques, et plus spécifiquement, du côté de l'artiste et naturaliste suisse Robert Hénard. Le grain, le flou et les forts contrastes font l'intérêt de sa photographie. L'instant suspendu est magique, fragile et précieux. Je vous propose de l'écouter.
Pendant 10 ans, j'ai vraiment galéré à vivre de cette passion parce que les magazines, ils n'aimaient pas ce genre de photos qui étaient floues, qui n'étaient pas assez définies. Qui étaient, regardez ça, moi, c'est pris à la demi-lune peut-être. C'est même pas un quart de seconde, je dois être à la demi-seconde. Un renard qui passe, on l'entendait crier, c'était au moment du rut, il y a quelques années, dans mon jardin, là, devant la ferme où j'habite. Et ça, bien évidemment que c'est pas de la photo qui permettait de vivre. Mais j'ai quand même tenu bon, en m'inspirant évidemment des gravures d'Hénard, des artistes, d'autres photographes évidemment, des Japonais, des Finlandais, des Américains. Je me suis nourri de plein de choses, et puis surtout du terrain, être sur le terrain et observer, passer du temps, les yeux dans les jumelles, ne pas penser qu'à la photo, et juste essayer d'avoir cet instant. Par contre, une photo, voilà, c'est vrai que c'est un partage, donc c'est important de bien la choisir, évidemment, et que ça reflète le vrai moment vécu sur le terrain. Ça, c'est un lynx vosgien. Et là, on le voit un peu mieux sur celle-ci. Tout ça pour dire que moi, j'ai dû passer pas loin de 15 ans sans le voir, quoi. Je savais qu'il était là. Au mois de mars, c'est la saison des amours. Il feule. Donc là, il commence un peu. Donc on entend un cri qui déchire le silence. C'est impressionnant. Je vais pas vous limiter, sinon je vais faire exploser votre micro. Mais c'est assez angoissant. C'est comme un renard, mais en plus fort. Mais un feulement très aigu. Et ça résonne. Et il s'appelle. C'est en ce moment. Hein, j'y suis en ce moment énormément. Et j'ai vu mon premier lynx vosgien il y a 4 ans seulement. Mon père... Ah, pour la petite anecdote, on est en train de préparer un film cinéma un peu comme La Panthère avec mon père qui m'a tout montré. Et je lui ai montré son premier lynx vosgien il y a une semaine. On a trouvé un chamois qui venait de tuer. On a passé 2 nuits à l'affût et il a vu son premier lynx il n'y a pas très longtemps, vosgien. Voilà, alors le lynx, lui, il est plutôt symbole de, comme l'ours et le loup, je trouve des vraies forêts. Hénard disait une forêt sans ours n'est pas une vraie forêt. Et c'est vrai, quand il y a la présence de ces grands prédateurs... La forêt n'est pas pareille, quoi. Quand on se balade dedans, elle a une grandeur. Ça n'a pas du tout la même âme, franchement. Et pour moi, c'est capital de garder, de préserver nos grands prédateurs. Et ça montre notre certaine intelligence à cohabiter. Comme je vous le disais en introduction, cette espèce de comment habiter le monde différemment, les grands prédateurs, je trouve que c'est une bonne leçon. L'accueil qu'on a fait au loup, c'est révélateur de notre non-acceptation du sauvage. C'est triste. Évidemment qu'il pose un problème avec les bergers, c'est évident. Il faut trouver des solutions, quoi. On est quand même dans une époque où il y en a, elles existent. Et puis accepter qu'il y ait une part du sauvage, accepter qu'il y ait un loup. Alors évidemment, quand ils sont pas structurés, ils font des bêtises. Ils peuvent taper des brebis. Mais accepter un peu ça, mais Mais c'est surtout apprendre un peu plus sur l'animal, parce que la cohabitation est possible. On le voit dans les autres pays, que ce soit dans les Abruzzes où je suis allé, dans les Asturies en Espagne, où il y a plus de 2000 loups. Donc la présence du loup en France, ours et lynx, pour moi, c'est assez révélateur de comment est-ce qu'on se comporte par rapport aux autres. Donc ils ont un attrait particulier pour moi.
Vincent Munier évoque la difficulté d'être reconnu pour son travail, exigeant et esthétiquement à rebours de la photographie animalière classique. La nuit, l'aube et le crépuscule ont sa préférence et ainsi provoquent des images plus proches de la peinture que de la photo documentaire. Vincent Munier parcourt les forêts françaises et plus particulièrement les Vosges depuis l'enfance. Son père lui a servi de guide et un film est en préparation pour célébrer la beauté de la nature et la complicité père-fils. L'exposition est à voir en prenant tout son temps. Un film splendide est également à découvrir. C'est au Musée des Confluences jusqu'au 27 avril 2025.
Bonjour Guillaume, cette semaine tu nous fais découvrir l'univers rock du groupe Salut l'Orage. Bonjour et merci à vous deux d'être sur notre plateau cette semaine.
Oui, alors Salut l'Orage, qui est un peu particulier, c'est qu'on ne peut pas trop écouter de choses sur internet.
Exact.
Et donc moi je vous ai découvert en fait en concert au Toy Toy.
D'accord.
Il n'y a pas très longtemps.
D'accord, je savais pas que vous étiez là.
Voilà, et j'ai pris une sacrée décharge électrique, voire même de sacrés éclairs. Alors déjà peut-être la question un peu bateau, mais quand même sur le nom Salut l'Orage, d'où ça vient.
On est deux sur scène, guitare, batterie. Ce qui nous caractérise, c'est une énergie très rock, mais des textes en français et une écriture, un flow très inspiré plutôt du hip-hop et de la pop française, plutôt actuelle. Dans le projet, on met un peu tout le bordel de nos vies, les côtés positifs, les côtés négatifs, ce qui nous rend heureux, ce qui nous déprime. Et l'orage, donc c'est un peu tout ça. Et Salut l'Orage, l'idée c'est de naviguer à travers, de s'en défaire, de dépasser un peu tout ce qui nous traverse au quotidien.
Alors moi, il se trouve que j'ai eu la chance d'écouter 4 titres sur SoundCloud. Alors je ne sais pas si ça sera les titres qui seront sur l'EP qui va sortir au mois d'avril, je crois.
Ouais, on sort un premier single en avril.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Et moi, le premier titre que j'ai écouté m'a rappelé un peu les débuts d'un groupe. Alors peut-être que tu es trop jeune, voilà, mais ils ne sont pas si vieux que ça non plus, eux. D'un groupe français qui s'appelle Luc.
Ah oui, si, oui,
qui
oui,
est
je
très
vois,
très rock et qui a des paroles justement, enfin qui ont des paroles assez rentre dedans justement à l'époque, voilà, la tête en l'envers, tout ça, c'était vraiment okay. Voilà, et donc moi ça m'a un petit peu fait penser à ça, et quand j'ai écouté les morceaux, voilà, j'ai trouvé ça super, vraiment très très rock, et, ouais. Et c'est assez vraiment intéressant. Et quand tu parlais du flow un peu hip hop, c'est vrai qu'il y a des passages un peu chanté parlé, on sait pas trop,
ouais,
en fait.
C'est ça, ouais, ouais. Exact, en fait du coup c'est plutôt moi qui compose, donc moi je suis Lucas, je suis guitariste chanteur, et il y a Maxime qui est à la batterie sur scène. C'est plutôt moi qui compose. Je pars soit d'un riff de guitare, soit d'une mélodie de voix que j'ai un peu dans la tête et sur lequel je compose la guitare. C'est vraiment des morceaux, en fait c'est des chansons. Il y a vraiment ce côté morceau, quoi. Il y a un propos et après on affine la forme. Et effectivement la guitare prend pas mal de place sur scène. Du coup j'ai 2 amplis guitare et 1 ampli basse pour couvrir un peu tout le spectre. Et il y a une grosse part au chant. Et je pense que les influences qui se rencontrent un peu, ça vient du fait que moi j'écoute majoritairement du hip-hop et de la pop. Parce que, en tout cas, quand je veux entendre des choses françaises, j'écoute très très peu de rock français. Et le rock que j'écoute, pour le coup, lui, c'est plutôt anglophone. Donc il y a un peu tout ça qui se mélange dans le projet, quoi.
Alors, dans ces 4 titres, il y en a un qui s'intitule « On verra bien ». Et moi, il y a une phrase qui me plaît bien. « J'ai perdu trop de temps à vouloir plaire aux autres. » Est-ce que tu peux...
En tant qu'artiste, on est beaucoup confronté au regard des gens. Et c'est un milieu un peu difficile parce que il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre notre personnalité, l'affirmer, dire ce qu'on a envie de dire sous la forme qu'on a envie de proposer. Et en même temps, on est soumis tout le temps au jugement des autres et c'est pas facile, surtout quand on commence, surtout quand on cherche un petit peu son identité. Donc on a fait, nous, un gros travail sur l'identité et on s'est dit en fait, maintenant, on va faire ce qu'on a envie de faire. Et peu importe ce que les gens en pensent, et on est convaincu que c'est en montrant qui on est vraiment au fond de nous qu'après on va arriver à à agréger un peu du monde autour de ça. Et dans le projet, il y a quelque chose de vraiment brut, de vraiment sincère, que ça soit dans les paroles, dans l'énergie, dans les compositions.
Tu veux dire que seules les barrières sont celles que tu as dans la tête, en fait.
Exactement.
Voilà, parce que ça, c'est une autre citation d'un deuxième titre,
ouais,
qui s'intitule On l'a fait. Et effectivement, ouais, on se met des barrières dans la tête.
Hein. Ouais, ouais. En fait, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, en voyageant, un peu en sortant du quotidien habituel dans lequel j'étais, qu'il y a très peu de limites en fait à ce qu'on peut faire. Il y a des barrières financières, évidemment, il y a des barrières selon là où on est, selon le milieu dans lequel on grandit, mais en vrai, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont possibles si on y met un peu du sien et qu'on se libère de cette auto-censure en fait, quoi, qu'on se met toujours dans la tête, quoi.
Mais il y a un peu d'ironie parce qu'il y a un autre titre qui s'appelle Rockstar. Alors évidemment, ça me fait penser à Oasis, Rock'n'Roll Rockstar d'Oasis. Okay. Et voilà, et donc évidemment, voilà, et où tu chantes, voilà, on veut tous être des rockstars, mais enfin, est-ce que tu veux vraiment être une rockstar?
Non, pas vraiment. En fait, les morceaux, ils expriment à chaque fois une partie de moi et de nous, plus généralement avec Max. Et du coup, on développe un sentiment, un ressenti, mais tout ne se résume pas à ça. Je pense que on surjoue dans ce morceau le mythe un peu rockstar, etc. Mais je pense que ce truc-là est un peu dépassé aujourd'hui, ça nous attire pas vraiment. Mais c'est vrai que bon, on veut vivre de notre musique, on a envie que ça plaise, on a envie de tourner, on a envie que les morceaux soient écoutés. Il y a ce côté, on a envie de percer, entre guillemets, quoi.
Quand même, il faut dire que vous êtes entouré, puisque vous faites partie du labo du Conservatoire. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est eux qui vous permettent, effectivement, par exemple, de jouer le 28 février au Marché Gare?
Exactement. Le labo, du coup, nous, c'est notre deuxième année, et donc c'est a priori la dernière. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un dispositif d'aide à l'émergence pour les projets en musique actuelle, en lien avec le Conservatoire de Lyon. Et du coup, là-bas, on a des répètes accompagnées sur lesquelles on bosse. Ça peut être à la fois de la matière artistique en elle-même, le son, ça peut être du coaching scénique, l'ordre du set, les interventions, etc. Il y a des rencontres professionnelles, donc avec plusieurs métiers qui entourent l'artiste dans l'industrie musicale, qui nous aident pas mal à développer le projet, du coup, parce que pour l'instant, Salut l'Orage se développe en totale indépendance et on s'est pas mal formé sur comment développer un projet en musique actuelle.
Vous faites donc le Marché Gare le 26 février, le 27, donc en résidence, là ce ne sont pas des concerts.
Ouais.
Le concert c'est le 28, sortie de résidence, j'imagine.
C'est ça.
Et puis vous faites aussi le fil, ça aussi c'est chouette de faire le fil.
Ouais, c'est ça. En fait, le projet il est vraiment implanté sur Saint-Étienne et donc on est accompagné aussi par la SMAC, le fil. On a fait notre première date du projet en décembre, là. Ça a été vraiment le lancement du projet en décembre, donc c'est vrai que c'est un truc assez neuf. Du coup, on a des résidences qui arrivent et on ouvre pour Dionysos en mars.
Et puis, on peut signaler aussi que dans la région, vous faites le Fort de Bruissin de Francheville le 28 mars.
Ouais, exact. Toutes nos dates sont sur nos réseaux sociaux. On est pas mal actifs, notamment sur Instagram. Il y a toute une direction artistique visuelle aussi autour du projet qui est sympa. Ça vaut le coup de checker et toutes les infos sont sur nos réseaux.
Tout à fait. Et donc, tu peux confirmer, donc ça sera un single qui sortira en avril.
C'est ça, c'est un premier titre qui s'appelle De la base au sommet, qui parle un peu d'ambition, qui parle de ce truc d'être ensemble, de bande de potes, qui part de rien et qui a envie de faire bouger les lignes. Voilà.
T'es fixé au crâne, logo floqué sur le cœur, te crassier pour héritage, on veut ressusciter S.E. T'es mal et phénomène, on vient changer les règles, de la prod à la distrib, on maîtrise l'ensemble de la chaîne. L'échec c'est de l'essence, on en a une réserve pleine, les connexions sont immenses, on va s'élever en huitième merveille. Genre à crier, d'habitude je suis très calme, mais là j'ai envie de tout niquer, t'imagines pas comme on a un tal. Deux ans qu'on avance, l'équipe monte en compétence, plus qu'une direction c'est un sens, merci au public pour la puissance. Entends-tu la guitare qui t'appelle? C'est le futur dans tes oreilles. Laisse-toi aller, on s'occupe du reste. la base, c'est une étincelle. Un œil qui brille et un cœur qui se jette. C'est beaucoup de stress et puis un peu d'aide. Une plume qui s'aiguise, quelques mouvements de tête. Les premiers concerts, la folie et la fête. Des ambitions qui s'alignent et des pattes qui se scellent. Solide sous les tempêtes, sous des camps de toute gangrène. C'est arrivé ensemble au sommet.
D'accord, bon écoute, déjà, rendez-vous au marché Gare le 28 février.
Merci pour ce petit extrait en primeur en fait pour notre radio. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à toi.
Gaëlle, cette semaine, pour ta chronique du jour, tu nous proposes une escapade grenobloise avec un collectionneur éclairé, Antoine de Galbert, qui achète et offre au musée de Grenoble une collection de photographies. Nous t'écoutons.
Exactement, c'est l'exposition Une histoire d'image, donation Antoine de Galbert au musée de Grenoble. Notre région connaît bien le collectionneur et mécène Antoine de Galbert. En 2017, il offrait sa collection de 520 coiffes et masques au musée des Confluences. Une partie de ses couvre-chefs avait été présentée dès juin 2019 lors d'une exposition que j'avais chroniquée, Le Monde en tête. C'est une nouvelle donation d'Antoine de Galbert que propose le musée de Grenoble. Antoine de Galbert est né en 1955 à Grenoble, ville dans laquelle il a eu une galerie avant de fonder à Paris la Maison Rouge, ouverte de 2004 à 2018. Pendant 4 ans, Antoine de Galbert a acheté pour le musée de Grenoble un vaste ensemble de photographies, considérable enrichissement du fond, salué par Guy Tosato, conservateur du musée pendant plus de 20 ans et récemment parti à la retraite. L'exposition Une histoire d'image propose 270 œuvres issues de cette nouvelle collection. Les choix révèlent et relèvent l'éclectisme du mécène. Histoire, documentaire, géopolitique, science, architecture, sans omettre la photographie plasticienne. Antoine de Galbert propose un parcours thématique et non pas chronologique qui, lui, mettrait en évidence les manques. Des photographes plus anonymes côtoient de grands noms, tels que Martine Parr, Henri Cartier-Bresson, Dorothée Allange, Vigis, Paul Strand, Jan Evelyn Atwood, Yann Morvan, Pascal Maître. Petit choix non exhaustif, la Polonaise, dont je vais essayer de ne pas écorcher le nom, donc Victoria Wojciechowska, présente la série Sparks, étincelle. L'ensemble se constitue de 72 portraits au cadrage identique de soldats ukrainiens engagés entre 2014 et 2016 dans le Donbass. La photographe travaille sur les liens entre les enjeux du monde contemporain et l'histoire. Le cartel révèle le métier civil de chacun de ces hommes avant qu'ils ne soient devenus soldats, ainsi que le temps passé au front. Sentiment poignant devant ce mur de photos d'identité, à l'identité justement dérobée. Un choix d'image a aussi été fait sur l'avant et l'après. Avant-après réel, chez Carl Hugo Schmolz, qui a repris en 1947 avec le même point de vue des photos de 1930 de son père. Le travail donne à voir en vis-à-vis l'architecture de la ville de Cologne détruite puis reconstruite. Chez Agnès Geoffrey, l'avant-après est virtuel. Elle transforme les images liées aux épisodes traumatiques de l'histoire. Pour gueule cassée, série gestes accidentels, la photographe présente, comme pour un diptyque, la photo originelle d'une gueule cassée de la Première Guerre mondiale, en vis-à-vis du même visage, mais numériquement reconstitué. Cette nouvelle image est une composition qui vise à réparer l'histoire. Luc Delahaye utilise aussi le montage dans sa monumentale et saisissante image de 3 mètres de long. Pour exacerber l'élan des échanges véhéments de la 132e réunion de la conférence de l'OPEP en septembre 2004 à Vienne, le photographe a juxtaposé plusieurs photos de cette réunion. Le spectateur a l'impression d'être face à une gigantesque peinture d'histoire. Troublant. Choix du photomontage aussi pour l'Égyptien Ahalam, récemment décédé en 2023, grand pourfendeur de la censure qu'il a lui-même subie. Dans sa série Privaat, il se moque de 21 despotes, dictateurs et bourreaux comme Poutine, Pol Pot ou encore Franco. Les photomontages présentent les tyrans dans des environnements ou positions incongrues. Humour et malaise. Patrick Zachman, qui travaille sur l'histoire de l'identité et de l'exil, a photographié en 2000 le camp d'extermination d'Auschwitz sous la neige. Grand format dans lequel la neige fonctionne comme un motif de la trace autant que du recouvrement. Cette puissante et vaste image au silence assourdissant convoque mémoire et oubli. Guillaume Herbault est présent avec 2 séries, Ukraine de Maïdan au Donbass de 2013 avec la statue détruite de Lénine et la série de 2005 sur les survivants de Nagasaki. Les 18 images de cette série forment une poignante et déchirante séquence narrative. Virus d'Antoine D'Agata, série réalisée en 2020 dans un service de réanimation Covid-19, couvre tout un pan de mur, de silhouettes spectrales, de patients et de soignants. Le photographe travaille avec les thermophotographies, des photographies qui captent la chaleur. Il détourne ainsi l'usage de l'appareil thermique habituellement utilisé pour la surveillance et la reconnaissance. Ce travail comporte dans son intégralité 1104 photos. Antoine D'Agata voulait photographier les corps et non pas les rues vides de la pandémie. Rue vide, c'est en revanche le choix de Stéphane Lagoutte pour sa série Covid Zone Grise, 5e jour de confinement, Quai des Tuileries. Covid également abordé sous l'angle plasticien, puisque Stéphane Lagoutte compose des images en superposant les prises de vue, offrant ainsi une vibration à l'image brouillée. L'image peut aussi être animée, cas de la vidéo de 2005 de Barthélémy Togo. Intitulée « Le jardinier assoiffé », elle présente un jardinier qui espère faire fructifier son argent en l'arrosant. La cupidité dialogue ici avec l'alerte climatique. Superbe donation d'Antoine de Galbert à ne pas manquer. L'exposition « Une histoire d'images » est programmée jusqu'au 3 mars 2024. Dépêchez-vous. Plus d'informations sur museedegrenoble.fr. Enfin, à noter, Antoine de Galbert présentera un large choix d'œuvres de sa collection personnelle à partir du 8 mars au MAC Lyon. Mais avant, allez vite au musée de Grenoble.
Merci beaucoup, Gaëlle. Cette semaine, Thomas, tu nous fais entendre Eri De Luca, et plus particulièrement un extrait de son roman intitulé Impossible, paru en 2020. Nous t'écoutons et on en parle juste après.
Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne de la photo que je vous ai montrée. Je ne la reconnais pas, j'oublie les visages à plus forte raison des années plus tard. Je ne pourrais que répéter ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas sûr, vous pouvez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit avant. Peut-être, mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans un train. Je suis interrogé par un magistrat, vous décidez des sujets, mais moi, je décide si j'ai envie de livrer ou non un souvenir. Je comprends. Je vous demande tout de même de revenir sur votre journée. Je me réveille tôt, vers 5 heures. J'attends 7 heures pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre, je me lave les dents, je sors, je prends ma voiture et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles en dehors des sentiers battus pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire de Bandiarak, en Valbadia. C'est un endroit escarpé et dangereux. J'ai laissé ma voiture et j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Capanna Alpina au col de Loggia. À 7h30, il n'y avait encore personne. J'ai été étonné de voir quelqu'un plus haut qui me précédait. Un homme ? Oui, un homme. On peut avoir un curieux comportement en montagne. Si l'on sent quelqu'un derrière soi qui grimpe plus vite, on accélère pour ne pas se faire dépasser. C'est enfantin mais fréquent. Il est évident que si l'autre est plus rapide, on sera rattrapé. Celui qui est devant force le rythme et devra bientôt ralentir ou s'arrêter pour reprendre son souffle. Il y a ceux qui font semblant de lacer leurs chaussures, de regarder le panorama, de prendre une photo. S'il s'agit d'un couple, alors j'entends l'homme qui invite la femme à monter plus vite. Il le dit à haute voix. Il tient à me faire savoir que lui grimperait beaucoup plus rapidement. Quand c'est moi qui tombe sur quelqu'un de plus rapide, je ralentis et je lui cède le passage. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos. Vous voyez, cette remarque ne figure pas dans votre précédent compte-rendu. La présence de quelqu'un dans votre dos vous dérange. Vous préférez être derrière, suivre. C'est intéressant, continuez. Je suis jusqu'au moment où je dois dépasser. Je n'ai pas rattrapé cette... Cet homme, il avait manifestement forcé le pas. C'est mieux ainsi, je préfère éviter. Quand je grimpe à un rythme soutenu, mon corps entre dans une sorte d'état de méditation pendant que ma tête passe de pensées légères à d'autres plus solennelles, à des images, couplets de chansons, dialogues à distance. C'est un rythme intense et je n'ai pas envie de l'interrompre pour dépasser quelqu'un et saluer. Quand je grimpe, je ne fais pas de pause. S'il faut réduire l'allure, je ralentis mais je ne m'arrête pas. Toujours est-il que je suis arrivé au bout du sentier au col de Loggia, où commence le haut plateau de Fan, sans avoir à dépasser qui que ce soit. De là-haut, on s'écarte du chemin de terre battue pour emprunter la vire de Bandiarak, au pied de la paroi verticale du Pise Conturine. C'était un endroit bien connu des braconniers d'autrefois. Voir cette personne devant moi qui se hâtait dans cette direction m'a agacé. Elle se hâtait ? Du col de Loggia, il faut d'abord descendre dans une dépression, puis on recommence à monter. Cet homme devant moi courait en descente. J'ai continué dans la même direction à pas lents. Si cet homme voulait mettre de la distance entre nous, j'étais d'accord. Je ne l'ai plus vu pendant un moment. Puis je l'ai retrouvé à nouveau au début du passage sur la vire. Il était à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Vous l'avez revu combien de temps après ? Pas plus de 2 heures après, il marchait craintivement. Craintivement, c'est-à-dire ? Il s'appuyait sur la paroi. Sur ce sol caillouteux, il faut mettre tout le poids du corps sur le pied pour ne pas glisser. Mais en s'appuyant sur la paroi, cet homme compromettait son équilibre. C'est ce que fait celui qui ne se sent pas sûr de ses appuis. Je vois. Continuez. Je n'ai plus pensé à lui. Le passage sur cette vire exige de la concentration, de regarder fixement par terre un pas après l'autre. C'est comme si l'on essayait de ne pas faire de bruit parce que le bruit est synonyme de cailloux qui glissent sous les pieds. Sur la vire de Bandiarak, il faut faire les bons pas à côté du précipice. J'ai avancé ainsi encore 1 heure environ. Je suis arrivé à un endroit qui était éboulé. Les pluies, l'accumulation de la neige de l'hiver passé balaient des portions du sentier, laissant une crevasse au milieu. Je ne pouvais pas continuer. Je devais rebrousser chemin. C'était sans regret. Mon but est de marcher dans des endroits déserts et j'avais déjà obtenu ma part. L'éboulement n'était pas récent, mais on voyait quelque chose au fond. J'ai pris mes jumelles et j'ai vu des vêtements au milieu des rochers. Impossible de descendre pour vérifier. J'ai appelé le 112 et j'ai fait le signalement, puis j'ai attendu pour indiquer l'endroit à l'hélicoptère. Il est arrivé avant 20 minutes, ensuite je suis revenu sur mes pas, et maintenant, depuis quelques jours, je répète cette journée pour la 3e fois.
Merci beaucoup Thomas pour ta lecture. Je sais ce qui t'a intéressé dans Eri de Luca, c'est d'abord la montagne, n'est-ce pas ?
Ah oui, c'est d'abord...
Et le Piémont.
c'est d'avoir la montagne et le Piémont, même si j'ai découvert qu'il est napolitain. Donc, c'est
mais il aime beaucoup cette région,
moi.
En revanche.
Mais voilà, ouais, oui, il y a régulièrement et il combat notamment le chantier du Lyon-Turin.
Oui, absolument.
C'est
son grand combat actuel, on va dire.
Oui, ouais, depuis quelques années.
Ouais. 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 Et Rémi Luca est aussi un militant. On peut le dire comme ça, engagé depuis bien des années. Et finalement, Impossible, c'est un peu son histoire, d'une certaine manière.
En tout cas, c'est une histoire qui peut être cousine de la sienne, ouais, tout à fait. C'est l'histoire d'un ancien militant qu'on comprend d'extrême gauche qui, des décennies plus tard, se retrouve face au juge parce qu'il a signalé donc quelqu'un qui a dévalé une pente et s'est retrouvé en bas et qui en est mort. Et puis peu à peu, on fait le lien entre lui,
entre les deux hommes,
et cette personne retrouvée tout en bas.
C'est une sorte d'enquête, mais c'est aussi une discussion finalement entre le juge et le présumé coupable.
Ouais, il y a une enquête évidemment en toile de fond, même
bien
si
sûr.
On comprend qu'elle est vite bouclée parce qu'il y a peu d'éléments. En fait, c'est davantage un huis clos. Extraordinairement dialectique entre les deux personnages.
C'est presque le juge et l'assassin en livre, quoi, finalement.
Oui. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé au dîner entre Talleyrand et Fouché. Il y a
magnifique.
Quelque chose de très, très
puissant. Souper. Le souper. Ça s'appelle le souper.
C'est le souper, c'est
ouais,
pas
c'est le souper Ciel. entre Ciel. Talleyrand et Fouché. Absolument magnifique, d'ailleurs.
Ouais, avec
interprété à l'époque. Riche. Claude Riche.
Claude Riche, oui.
Ah oui, magnifique. Oh. Effectivement.
Ouais, on s'éloigne, mais oui, c'est un peu le même type de rapport de force, sauf que là, ce qui sépare les deux hommes, c'est à la fois plusieurs décennies et une inculture du juge par rapport à des événements passés et très très lointains, et on le comprend peu à peu, qui est réinstauré au fil du roman, un dialogue de classe, une opposition de classe, en fait. Et c'est extraordinairement intéressant, parce que à aucun moment... l'ancien militant prévenu, comme on dit, ne perd sa ténacité dans le rapport à l'État et dans ce qu'il conteste. C'est-à-dire que même pour se défendre, il reste vraiment sur sa dialectique, sur le fait qu'il n'a pas à en dire trop pour se défendre, même si peu à peu il est quand même mis en difficulté, mais pas tant que ça. C'est ça qui est remarquable.
Impossible de Eri De Luca. Merci beaucoup pour cette découverte. Je rappelle qu'il est paru en 2020 et que vous pouvez peut-être le trouver chez votre bouquiniste ou en version poche. Merci. Nous allons terminer avec nos Gédéons, comme à notre habitude, et puis on va commencer par Gaëlle. Alors, avec quoi es-tu venue cette semaine ?
Alors, mon Gédéon de la semaine est une librairie. Depuis le 21 novembre 2023, la librairie Michel Descours est devenue l'œil cacodilate, nom tiré de l'œuvre éponyme de Francis Picabia, qui, atteint d'un zona ophtalmique, avait fait signer tous ses amis artistes comme sur un plat autour de la représentation de son œil. Ce dessin louait l'échange à l'image de l'interactivité que propose la librairie l'œil cacodilate. Toujours à la même adresse, au 31 rue Auguste Comte, mais à la façade repeinte d'un superbe et rayonnant orange, la librairie L'œil cacodilate demeure LA référence en matière de beaux livres d'art, de catalogues d'expositions nationales et internationales, ainsi que d'ouvrages rares et inédits. L'échange, axe de la librairie, se fait lors de rencontres entre le public et les écrivains, les commissaires d'exposition, les poètes, mais aussi les artistes, comme tout récemment Michel Barcello. La librairie L'œil cacodilate lance un nouveau cycle de rencontres autour de grandes figures de l'histoire littéraire et de l'histoire des idées. La première programmation, le 5 mars, est consacrée à Winfried Georg Sebald, avec Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, et François-René Martin, historien de l'art. Au-delà de ce nouveau rendez-vous, renseignez-vous sur la foisonnante programmation, très qualitative et dynamique, avec parfois plusieurs dates par semaine. Vous pourrez ainsi ajouter dans votre agenda, dès le lendemain, donc le 6 mars, la rencontre avec André Guntert, qui viendra présenter son livre au titre « Qui va, j'en suis certaine, attiser votre curiosité ». Pourquoi sourit-on en photographie ? plus d'informations sur librairie-oilcacodilate.com.
Merci beaucoup. Guillaume, quel est ton Gédéon cette semaine ?
Alors moi, mon Gédéon de la semaine, c'est un concert. Un concert qui aura lieu ce samedi 24 février au Périscope. Pourquoi aller au Périscope ? Parce que c'est la soirée de l'excellent label, le Pop Club Records. Ce label, non seulement produit une quantité d'artistes, certes un peu confidentiels, mais qui mériterait davantage d'exposition, et qui aussi produit des disques avec des pochettes souvent extraordinaire. Bon, mais en tout cas, le contenu est aussi intéressant que la pochette, évidemment. Et donc, lors de cette soirée, il y aura trois artistes du label, dont une artiste qu'on avait reçue à ce micro, Wendy Martinez, et un autre artiste qui s'appelle Romano Bianchi, et puis surtout, je dis surtout, mais tout le monde est intéressant, un artiste que j'aime énormément, qui s'appelle Nick Weldon. Alors, Nick Weldon, il est de Sheffield, mais il habite en France depuis un certain nombre d'années. Et c'est peut-être le secret le mieux gardé de France ou de Sheffield, je ne sais pas, parce que c'est un garçon qui a produit à peu près une vingtaine de disques, sous tous les noms, à chaque fois il change de nom, de projet. Mais bon, sous le nom de Nick Weldon, c'est son troisième album qui vient de sortir. Je cherche d'ailleurs le nom de cet album, j'ai un trou, c'est terrifiant. Je crois que l'album s'appelle Waiting for the Piano to Fall. En attendant que le piano se casse la gueule, entre guillemets.
S'écroule.
Et vraiment, c'est un artiste, moi, que j'aime beaucoup, parce que d'abord, c'est très rock, folk. Il a une voix un petit peu à la Dylan, mais ça serait très réducteur de dire ça. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était au Troxon, et il a mis... Bon, d'accord, le Troxon, c'est tout petit.
C'est tout petit.
C'est une cam. En tout cas, il a mis le feu, et c'était vraiment extraordinaire. Donc moi, je vous conseille énormément cette soirée, d'autant plus que Alex Cassimi, qui a son propre projet, qui s'appelle Cassimi, qui sort aussi des disques sous le label qu'il a créé, le Pop Club Records, sera certainement présent, et vraiment ça va être une très belle soirée. Le Périscope avait déjà organisé une précédente soirée l'année dernière, et c'était vraiment un moment de convivialité et de qualité assez extraordinaire. Donc je rappelle la date, c'est le Périscope, le samedi 24 février, c'est la soirée Pop Club Records avec Nick Weldon and the Living Paintings. Donc voilà, il a créé un groupe pour cela, parce que d'habitude il joue un peu seul. Romano Bianchi et l'excellente Wendy Martinez qu'on avait reçue ici pour son premier album. Donc c'est vraiment une très belle soirée.
Merci beaucoup. Pour moi, ce sera une chronique en forme d'hommage à un poète décédé en 2022, Christian Bobin, que j'adore. J'adorais. Son dernier ouvrage vient de paraître chez Gallimard. C'est incroyable d'avoir une actualité pour un poète ou écrivain mort. La poésie pour Salut. Son dernier livre, Christian Bobin, l'a commencé chez lui, au Creusot, et n'a cessé de l'écrire sur son lit d'hôpital, luttant contre la maladie qui devait l'emporter le 23 novembre 2022. Le Murmure est un livre de guerre. Pas pour faire des morts, mais pour faire des vivants, précise son auteur. Des vivants sensibles à la beauté d'un monde qu'il a vu s'éloigner tandis que ses forces se déclinaient et qu'il a voulu célébrer une dernière fois. Ce sont d'abord les notes de Chopin jouées par Sokolov, entre lesquelles surgissent des intervalles de ce silence qui manque à nos vies affolées. Ce sont les vers de Rimbaud et égrenant dans sa course des rimes les yeux de la petite châtelaine de Camille Claudel, les vitraux de l'abbatiale de Conques, les alvéoles du pain de l'enfance, tout ce qui fut et sera. Adolescent, Christian Bobin voit un jour sa mère entrer furieuse dans sa chambre et le sommer d'arrêter cette musique qui s'entend jusque dans la rue. Ce jour-là, par cet ordre, ma mère m'envoya chez les morts qui font des livres dont les pages, quand on les tourne, font moins de bruit que l'air glissant sur l'eau d'un étang. Des livres murmurent, semblables au vol magique des étourneaux, qui, rencontrant un obstacle, scindent en deux leurs nuées pour les récompenser, une fois l'obstacle franchi. Cette passe s'appelle le murmure. Si l'écrivain a nommé son dernier livre en référence à ce phénomène naturel, n'est-ce pas pour nous inciter à résister aux obstacles que l'existence place sur notre chemin ? Je vous invite à lire ce livre sublime qui s'appelle Le murmure de Christian Bobin, qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Allez, on se quitte sur ce bel hommage. Merci, à la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.